pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Une autre histoire qui m'avait beaucoup marqué également. À la sortie de la messe, le secrétaire de mairie réunissait chaque dimanche les gens du village pour leur raconter ce qu'ils appelaient à l'époque les bannis, pour raconter ce qui se passait dans le village. Un dimanche, il y avait à côté de lui un conseiller municipal qui était lui. Il finit son discours et le conseiller municipal monte sur une petite marche qu'il y avait en élévation afin qu'on le voie bien et lui dit « Écoutez, donc moi j'ai une histoire à vous raconter. Connaissez-vous la différence qu'il y a entre un boche et une hirondelle ?» Apparemment, personne n'avait l'air de le savoir. Mais dis-moi, je vais vous le raconter. Quand un boche vient en France et qu'il fait des petits, quand il s'en va, il les laisse sur place, alors qu'une hirondelle, quand elle fait des petits en France et qu'elle s'en va, elle les emmène. J'ai eu honte, terriblement honte. Il m'a demandé de venir près de lui, sur cette marche, afin qu'on me voie bien. Et on a ricané. Ouais. Avec tout le public. La honte. C'était, je sais pas, c'était quelque chose de... J'ai quitté la foule et je suis parti. Je suis parti sous un pont, près d'une rivière, et je suis resté toute la nuit à pleurer. J'avais honte de revenir dans le village, j'avais honte de retourner à l'école le lendemain. Je ne suis pas allé à l'école non plus le lendemain, je suis allé dans une ferme en cachette des cultivateurs, j'ai pris des œufs, j'ai mangé des œufs comme ça, et puis j'ai traîné à gauche, à droite. La honte. La honte, la honte. Je devais avoir 6 ans. Ces choses-là, on ne peut pas les oublier. Toute la vie, c'est marqué pour la vie entière. C'est indélébile.
C'est une histoire que nous avions diffusée pour la première fois à l'occasion du 60e anniversaire du débarquement en 2004. Une autre digression autour de la honte et de la guerre, l'idée qu'en en parlant peut-être, la honte passerait. Une histoire pour expier, expurger, assumer, se débrouiller avec un passé tombé dans le domaine public et peut-être le dépasser. Au lendemain du débarquement, en effet, ils furent environ 200 000 enfants de la honte, fruit, disait-on, de cette collaboration horizontale, fille ou fils de Bosch, comme on disait, ignorant leur véritable histoire, ne sachant que des mensonges ou ayant vécu dans le secret et la dissimulation. Pour certains, avec le temps, le sentiment de honte a fait place à un désir de retrouver les origines ou de remonter le passé. Pour d'autres, le temps n'a pas changé grand-chose à la honte. Pour cette semaine, vous l'aurez compris, consacrée à cette émotion que nous nommons la honte, nous retrouvons aujourd'hui Daniel. Il a 61 ans, il vit au Mans où il est à la retraite. Et la question le concernant est encore ouverte. A-t-il bu sa honte, libéré sa rage, fait entendre sa colère ? Réponse jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, dans ce reportage signé Antoine Lee et diffusé pour la première fois le 1er juin 2004.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça s'est passé tout simplement sur la route de Pleurtuis à Dinard. Ma mère était à bicyclette et la chaîne de son vélo a déraillé. Elle a voulu réparer par elle-même et c'est là que mon père s'est avancé pour lui faire ses offres de service. Et mon père avait quelque chose à la main, il avait un paquet de cerises, donc je pense que c'était au mois de mai ou au mois de juin qu'ils se sont connus. Alors, je pense que ma mère était impressionnée par, elle me l'a redit après, la gentillesse de mon père et surtout il parlait très bien le français. Et de ce fait, ils se sont revus. Il était officier de la Wehrmacht. Il avait le grade de lieutenant. Les Allemands avaient occupé le terrain d'aviation de Pleurtuis-Dinard et il était basé là-bas. Et mon père aurait proposé à ma mère de venir travailler comme cantinière sur le terrain d'aviation de Pleurtuis, ce que ma mère a accepté. C'était en 41-42, je pense. Faisant abstraction de l'uniforme, faisant abstraction des mouvances de la guerre, c'était une belle histoire d'amour. Ouais. Ouais. Malheureusement, la guerre était là et la guerre a tout changé. Mon père était allemand, ma mère était française et je suis arrivé ici. L'accident. Je suis un accident de la guerre. Un homme et une femme qui s'aiment, c'est merveilleux. La guerre. Et voilà. C'est ça l'accident. C'est la guerre. Je suis né le 2 avril 1943 à Paris 14e. Quand ma mère a su qu'elle attendait un enfant, connaissant les éventuelles représailles concernant les femmes ayant eu des relations avec des soldats allemands, elle est partie me mettre au monde dans la région parisienne. Alors je suis resté 4 ans dans une famille d'accueil. Le peu de souvenirs que j'en ai, c'est des gens qui m'ont aimé comme si ça avait été leur propre enfant d'ailleurs. Là, j'étais là, ils ne pouvaient plus s'occuper de moi comme ils le voulaient. Alors ma mère m'a emmené chez sa propre mère, chez qui j'ai été élevé, dans un petit village des Côtes d'Armor. Au tout début, ma grand-mère m'avait interdit de sortir de la maison. Je comprenais pas très bien pourquoi. Et énormément de personnes venaient dire bonjour à ma grand-mère, comme par hasard en ce moment-là. C'était pour me voir, pour voir si le fils d'un Boche était le même qu'un fils de Français. Comme une bête curieuse. Qui sait ça? Comment il est? Est-ce que c'est vrai qu'il est bien blond? J'étais presque blanc, même les cheveux. Comme on voyait les Allemands à l'époque, très blonds, yeux bleus, etc. quoi. Et que dans la région, tout le monde était brun. Au fil du temps, mais oh, les gens ont su me le dire. Hein. Ah oui, le mot boche était le mot qu'on employait pour me désigner, moi. C'était commun. Hein. Après la guerre, on ne parlait des Allemands que avec le terme boche. Hein. On ne parlait pas d'autre chose. Hein. J'ai été surpris d'ailleurs parce qu'en arrivant, on a commencé par me dire « il faut me dire vous ». Ma grand-mère, j'ai toujours dit « vous » à ma grand-mère, oui, toujours. Pour faire une barrière, je pense, pour marquer bien une différence entre elle et moi. Ouais. Et plus je grandissais, plus ça se passait mal. Elle me battait plus facilement qu'elle m'embrassait, puisque ma grand-mère ne m'a jamais embrassé. Elle avait honte. Et quand je disais par exemple à ma grand-mère, mais pourquoi qu'on m'appelle le Boche à l'école? Elle me disait, tu demanderas à ta mère. Quand je voyais ma mère une fois par an, je lui demandais, tu es trop jeune pour le savoir, quand tu seras plus vieux, je te le dirai. Et avec ça, je n'avais que ça. Quoi. Je n'avais que ça. Alors je me faisais mon petit cinéma, mes petites idées. Quoi. Et en réalité, toute la vérité, je l'ai su par les enfants de l'école. Ce sont les enfants de l'école, parce que les parents, je pense, entre eux, ils devaient parler de ces choses-là. Et à l'école, on me rapportait ce que les parents disaient. Et ça, c'était tous les jours. Hein. On m'a dit, par exemple, est-ce que tu sais comment t'es né? Je ne répondais pas la plupart du temps. Hein. Il me dit, parce que c'est un Boche qui a monté sur ta mère comme un cochon a monté sur une truie. Quoi. Et ça prend des proportions énormes dans la tête d'un enfant. On se pose des questions sans arrêt, on ne comprend pas. Et on ne peut pas demander à quelqu'un une explication, puisqu'on est rejeté. À l'époque, les instituteurs avaient en Bretagne des sabots de bois. Et les sabots de bois, je peux vous jurer que j'en ai pris plusieurs dans le derrière. À chaque fois qu'il y avait une bêtise qui était faite, c'était automatiquement pour moi. Même si ce n'était pas vrai, c'était automatiquement. Ah, t'es vraiment un sale Boche. C'était comme ça, sans arrêt. Oui. Alors, je me rebellais toujours, j'avais toujours quelque chose à faire, des bêtises, j'en ai fait beaucoup. Et oui, des bêtises, j'en ai fait énormément. Je sonnais le tocsin à l'église, je coupais des arbres chez les fermiers, je coupais des cultures, les choux, tout ce que je pouvais faire comme bêtises, je les faisais quoi. Et après, je ramassais, bien sûr. Alors, ma grand-mère, au bout d'un moment, elle en avait marre, alors elle m'enfermait dans un poulailler. Elle m'enfermait avec un cadenas. Et la nuit, les rats qui passaient par là-dessus. Alors au départ, j'étais mort de peur. Puis quand j'ai compris la combine, je criais, je faisais du bruit et les rats partaient. Et après, j'ai cassé les perchoirs, j'ai cassé les œufs pour essayer de sortir là-dedans. J'ai cogné contre les tôles. Et voilà.
Vous aviez quel âge quand vous étiez enfermé dans ce poulailler?
5 ans, 6 ans. Mais c'était fréquent, ça. C'était la punition, ça. Il y avait peut-être 2 choses. Il y avait, donc, pour me punir de mes bêtises, mais aussi en disant, ben, vous voyez, moi aussi, j'ai contribué à ma façon à punir l'allemand. C'était certain. Parce qu'elle avait très honte, elle aussi. Et les colibés, elle les recevait aussi, elle, de son côté. Elle me l'a dit plusieurs fois qu'elle avait honte. Ouais. Ouais. Malheureusement, j'étais là. Hein. Et j'étais pas responsable, je suis né, moi, comme ça. Parfois, j'ai eu tellement honte, tellement gêné, que je me disais, si j'avais été abandonné, j'aurais été peut-être plus heureux.
Est-ce qu'on insultait votre mère ?
Oui, bien sûr, oui, oui. On la traitait de personne, oui. Et en plus, c'était très mal vu parce que ma mère, donc, était, par la force des choses, fille-mère, et à l'époque, ça ne se faisait pas. Et en plus, avoir un enfant avec un Allemand. Alors, on pensait que là, c'était mal vu. Oui.
Qu'est-ce qu'on disait ?
Femme à soldat. C'était pas très beau, mais femme à soldat, oui. Ouais. Et vous savez que après la guerre, toutes ces femmes-là, on les a tondues, on les exposait sur la voie publique. Certaines ont été passées au coltas et d'autres sont décédées. C'était pas très beau ce que les Français ont fait non plus, là. C'est pas très glorieux.
Et votre mère, elle a subi ça ou...
Non, parce qu'elle était partie déjà, elle était partie à Paris et elle s'était confondue dans la foule et puis voilà. Elle était partie dans les anonymats.
Elle a échappé à ça.
Oui, elle a échappé, oui. Tant mieux pour elle, d'ailleurs. Ma mère n'a jamais été une collaboratrice. Non, non. Elle a aimé un homme, et point final.
France Culture, les pieds sur terre.
Je vais vous raconter une histoire. C'était une bonne sœur que tout le monde appelait là-bas Trottinette et qui avait sa petite collègue qu'on appelait Chiffonnette. Et cette bonne sœur-là, elle faisait le catéchisme aussi dans le village. Et sans me dire qu'elle ne m'aimait pas parce que j'étais un fils d'Allemand, elle avait sa petite façon à elle qui n'était pas très franche de me punir. Et un beau jour, j'ai voulu me venger aussi d'elle. Quand elle allait à l'église, elle mettait toujours ses sabots à l'entrée de la sacristie. Et un beau jour, j'avais dit à quelques copains, pour me rendre intéressant probablement, j'ai dit, voyez ces sabots, regardez ce que je vais en faire. Je suis allé chercher ces sabots, je me suis caché derrière une pierre tombale, j'ai fait ma crotte dans les sabots de la bonne sœur, et j'étais les reporter devant la sacristie. Tout le monde a attendu que la sœur ressorte de la sacristie, mette ses pieds dedans, et naturellement, entre nous, c'était une rigolade. Mais alors, quand je faisais des bêtises, ils étaient toujours avec moi. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'en faisais tant. Mais en contrepartie, je dois dire également, il y a eu des personnes qui ont été tout à fait neutres dans cette affaire, et d'autres personnes qui m'ont accueilli avec une certaine chaleur. J'avais une institutrice qui s'appelait Madame Allais, qui, elle, a su me protéger, enfin, a essayé de me protéger du mieux qu'elle a pu. Elle prenait ma défense, elle essayait de faire le contrepoids pour que je sois un petit peu moins comment martyrisé. Oui. À l'époque, le mot racisme n'était pas employé, mais c'était une forme de racisme, j'en suis convaincu. Oui. Disons que j'aurais pu très bien aussi bien finir comme voyou, que j'ai fini quand même à peu près correctement, quoi. Mais j'ai vécu en marge je me suis construit en marge d'une logique, quoi. Oui, oui, certainement, oui. C'est sûr, même. C'est sûr, je me suis construit par moi-même. J'ai essayé de me faire le bien et le mal par moi-même. Il a fallu que je me défende par moi-même, il a fallu que je me forge par moi-même, il a fallu que je fasse tout par moi-même. Personne n'est venu me dire, tiens, peut-être que je vais t'aider à ceci, peut-être que je vais t'aider à cela, peut-être que je vais te donner des conseils pour ceci, peut-être... Non. Non, j'ai eu l'amour de ma mère, certainement, mais c'était un amour... Je pense que c'est difficile d'avoir un amour quand on voit une personne une fois par an et une lettre tous les 15 jours ou 3 semaines, quand c'est pas plus. Mon père, je ne savais même pas s'il était vivant, s'il était mort, je ne savais pas qui il était, je ne savais pas si c'était un SS, si c'était un soldat de l'armée régulière, je ne savais rien du tout. Thank you. À 8 ans. À 8 ans, ma mère m'a dit, je vais répondre aux questions que tu m'as posées souvent. Ton père était allemand, mais ça je le savais déjà. Et ton père est décédé. Mon père a décédé très peu de temps après ma naissance. On va partir en Allemagne demain et tu vas connaître ta famille allemande. La veille pour le lendemain. Il ne faut pas oublier que ma mère n'habitait pas avec moi. Elle est venue, donc, et elle avait pris 2 semaines de congé, je pense. Et nous sommes partis 10 jours là-bas, en Allemagne. Et il y avait le frère de mon père qui vivait encore à ce moment-là, qui est venu nous chercher à Stuttgart. Et on était accueillis là-bas, quelque chose de merveilleux. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que la famille de mon père, à partir de 5 ans, a fait toutes les recherches possibles pour retrouver mes traces en France. Parce que mon père, sur son lit de mort, avait demandé à une infirmière d'écrire à sa propre mère, qui est donc ma grand-mère paternelle, « J'ai un fils en France, il s'appelle Daniel, je veux que tu l'élèves comme tu nous as élevés et que tu le recueilles parmi nous. » Une incompréhension a eu lieu entre ma mère et eux et ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être qu'ils ont eu peur que... Ma mère ne parlait pas allemand aussi. Il y a eu un problème de langue. Parce que ma mère était invitée à venir travailler là-bas aussi. Alors voilà. Et je suis toujours en relation avec eux. Oui, j'étais très très bien accueilli. Les premières fois que je suis arrivé là-bas, on m'a dit « Daniel, chaque jour que tu passes ici, je veux que ce soit jour de fête. » La propre sœur de mon père qui m'a dit ça, ma tante Elisabeth. C'était quelque chose de tout à fait très bien, c'était sublime. Il y avait des petits gâteaux, il y avait des choses que je n'avais pas été habitué à manger. Et il y avait de l'affection. On sentait qu'il y avait de l'affection, ça se sent. Daniel, tu es le fils. Et en plus, j'avais la chance de ressembler étrangement à mon père. Je ressemblais beaucoup. Toute la famille est venue, on m'a présenté à tout le monde. Il n'y avait pas eu de honte, de faux fuyant, il n'y a rien eu. C'était pour moi quelque chose de nouveau, de dire j'ai une famille, je connais ma famille, je connais la famille de mon père. C'était un peu tard, mais c'était déjà beaucoup. C'est pour ça que je dis que mon père a été merveilleux dans ce sens. Tout le monde qui disait tant de mal de tous les Allemands n'ont pas été pareils, la preuve. Mon père, sur son lit de mort, qui écrit à sa propre mère l'album de photos personnelles de mon père. Ma tante me l'avait gardé, elle me l'a donné. La casquette d'officier de mon père, elle me l'a donné, je l'ai ici. Moi, j'ai trouvé ça très bien, ouais. Très, très bien. Je n'ai pas tari de questions. J'ai posé des questions, toutes sortes de questions que j'ai pu, oui. Ses études, tout, tout. Je voulais tout savoir. J'ai même demandé ses premiers amours, qu'est-ce qu'il a eu comme premiers amours et tout. J'ai tout, j'ai voulu tout savoir, oui. Tout. C'était un besoin, le manque de ne pas connaître votre père. Une chose, que quand j'étais là-bas, il avait fait des poses de photos. J'ai voulu refaire les mêmes poses photos que lui. Pour m'identifier. Oui. Peut-être m'identifier à lui-même, mais pour aussi m'identifier... Moi, j'ai voulu faire des photos identiques. Les mêmes poses, au même endroit. J'ai voulu faire les mêmes. Et j'étais heureux de le faire. Et ma mère était très, très, très heureuse de ce bonheur, qui n'a pas été un bonheur éphémère, c'était un bonheur durable. Elle était très heureuse de ça, oui. C'était une délivrance, c'est certain, mais quand je suis revenu dans le contexte français, il ne fallait pas en parler non plus. C'était une chose qui était plus ou moins tabou, il ne fallait pas en parler, et il y avait toujours cette honte. Et effectivement, dans notre histoire, nous avons, je connais moi-même, peut-être une bonne trentaine de personnes d'enfants comme moi. Et très peu ont pu se libérer comme moi je suis libéré. Ils ont tous encore la honte. Tous. Il y a des témoignages qui sont bien pires que les miens. Bien pires que les miens. Parce qu'eux n'ont pas eu la chance de connaître la famille du père. Ça m'a suivi... pendant des années, oui, ça m'a suivi très longtemps. Hein. Oui. Ah oui, très longtemps, ça m'a suivi jusqu'à l'âge de, mettons, mon mariage, quoi. Jusqu'à mon mariage, à peu près, ça m'a suivi, oui. Je me suis marié très tôt, à 19 ans et demi. puisque j'étais obligé de demander l'autorisation à ma mère. À l'époque, la majorité était à 21 ans. Mais c'était une forme de... peut-être de fuite et de sécuriser aussi le besoin d'amour d'une femme, parce que je n'avais pas connu non plus. C'est vrai que le mot sentiment avec une femme, ça c'était inconnu.
Ouais. Est-ce que vous avez pu en parler facilement avec votre première femme ?
Ma première femme est venue en Allemagne faire la connaissance de ma famille. Je l'avais emmenée avec moi. Et je ne pense pas qu'elle avait très apprécié. Et quand nous étions revenus à la maison, elle... on voyait qu'elle était gênée de cette histoire-là, et c'est surprenant, mais j'avais une photo de mon père à chaque fois que quelqu'un venait à la maison et retournait cette photo pour qu'on ne la voie pas. Oui. Et je pense qu'elle aussi était gênée de cette histoire-là. Et ça ne lui plaisait pas trop. Devant moi, elle en parlait assez comme ça, quoi, mais ce n'était pas le fond de sa pensée, quoi. Je pense qu'elle avait honte, oui.
Et vous lui en vouliez pour ça ou pas ?
Non, bien sûr que non. Non, je lui en voulais pas. Non. Non. Après tout ce que j'avais passé, vous savez, j'étais au-dessus de tout ça. Et maintenant, je peux en libre parler, mais en lit, je peux afficher mon visage en disant mon père était allemand, ma mère était française, et je suis fier. Et ça, c'est bien. Ouais.
Ça a pris du temps, ça.
Ah oui. Ouais. 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 Ça a pris 50 ans. Ouais.
Daniel, qu'est-ce que vous pensez là, des cérémonies qui vont être organisées à l'occasion des 60 ans du débarquement ?
Moi, je pense que c'est une très belle chose et je vais vous raconter une anecdote. Ma mère, qui, elle, était tombée amoureuse d'un soldat allemand, et son frère, lui, s'était engagé comme béret vert avec le commandant Kiefer sur les plages du débarquement et sera lui présent pour l'anniversaire des 60 ans. C'est assez paradoxal, mais malheureusement, c'est comme ça. Moi, je m'en suis fait, comme il me disait, moi, je me faisais du Bosch à l'époque et elle, ça aussi, se faisait, mais d'une façon différente. Et effectivement, c'était pas très... Pour moi, c'était pas agréable à entendre et il y avait une incompréhension certaine et en plus, leurs relations n'ont jamais été bonnes suite à ça.
C'était l'été 42, on hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié. Puis un jour, tout simplement, tu t'es offerte. C'était l'été 42. J'avais 15 ans, tu étais belle. Autour de nous, c'était la guerre. Et moi, dans tes bras, je t'aime. Dans mes bras, tu pleurais, je t'aime. On avait peur, on était heureux. C'était l'été 42, j'avais 15 ans. Tu étais belle, c'était l'été de mon premier amour. J'avais 15 ans.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et notre thématique spéciale autour de la honte dans le cadre du programme général de France Culture sur les émotions qui ne vous aura pas échappé. C'était un reportage signé Antoine Lee, réalisé par Claude Giovanetti, l'attaché de production. C'était bien sûr Sandrine Chaperon. Cette émission, je le précise, a été diffusée pour la première fois le 1er juin 2004 sur le sujet des enfants de la honte. N'hésitez pas à lire le livre de Jean-Paul Picapert et Ludwig Nortz, Enfants maudits, paru en 2004 aux éditions des Sirtes. Merci à Daniel pour ce reportage, bien sûr, ainsi qu'à Gisèle Francôme. Des commentaires, des réactions, des suggestions, des hontes que vous avez bues, que vous n'avez pas digérées, des partages, des choses à nous dire ou à nous demander. Direction les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, un compte Twitter qui vous attendent tous deux avec impatience. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the snow. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.